France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Jeudi 13 mai, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les départs en week-end des Français quasi déconfinés, c'est l'ascension et camping, hôtels, gares et sites de covoiturage affichent une fréquentation digne de l'avant-Covid. Les autres titres, Marion.
Le vaccin AstraZeneca a-t-il causé la mort d'une quinzaine de Français victimes de ces très rares effets secondaires? Une bataille judiciaire s'engage. Les États-Unis interviennent diplomatiquement au Proche-Orient. Joe Biden appelle le premier ministre israélien alors que les attaques entre Israël et Palestine ont fait 74 morts en deux jours. En France, le gouvernement revoit sa copie sur l'assurance chômage. Pas sûr que ça suffise. Et puis, trois divisions les séparent. Les footballeurs amateurs de Rumilly-Vallières affrontent ce soir Monaco, club de Ligue 1, en demi-finale de Coupe de France. Ils veulent croire en leur chance.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Karine Bécard.
Elle a sorti son dernier film deux jours avant l'annonce du deuxième confinement. Il sera l'un des premiers à être à l'affiche des cinémas qui rouvrent. Mais comment relancer la machine? Comment parler de son film avec la même intensité? L'actrice, scénariste et réalisatrice Mai Wen nous fera l'immense plaisir de nous présenter ADN tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député Les Républicain de l'Oise, Éric Woerth. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Le pont de l'Ascension s'annonce mouillé mais très fréquenté. Les nuages et la pluie ne dissuadent pas les vacanciers pressés de profiter de la fin des déplacements restreints. Pic à 400 km de bouchons en Île-de-France hier. Le site de covoiturage Blablacar anticipe 150 000 voyageurs, comme du temps de l'avant-Covid. La SNCF, 1 million. Exemple, gare Montparnasse à Paris, au micro France Inter de Rémi Brancato.
Au vu de la foule qui se presse dans le hall de gare, les trains semblent bien remplis.
Vous allez où ?
À La Rochelle.
Claire et Bruno sont impatients de monter à bord.
Ça fait longtemps, vous n'avez pas voyagé ?
Ah oui, très longtemps. Ça fait du bien, parce qu'on a envie de voir notre fille qu'on n'a pas vue depuis Noël.
Partir pour des retrouvailles à Nantes, Margot en avait besoin.
C'est un petit peu oppressant quand même, le quotidien à Paris, passer du temps avec les proches. Ça manque un petit peu quand même actuellement. Je travaille dans la santé, donc besoin de prendre un peu l'air.
Et même si les haut-parleurs rappellent le contexte sanitaire, ce petit groupe de 7 étudiants, dont Julie, Valentin et Bettina, s'apprêtent à tout oublier jusqu'à dimanche dans une maison à Biarritz.
On est super heureux de partir en vacances entre amis.
C'est complètement un soulagement et c'est hyper cool.
On avait besoin de se retrouver et de s'organiser quelque chose et surtout de partir de nos petits appartements, passer du temps entre amis.
Je pense qu'on est en train d'entamer le processus du début de la vie d'après. Enfin, j'espère.
Ce sera peut-être plus au mois de juin, le début de la vie d'après. Il y a quand même tout qui est encore fermé. On va quand même en profiter comme on peut.
Car il y a quand même du changement dans l'air.
La vie reprend.
Caroline, partie de Lille pour Bordeaux, en est sûre.
On a le droit de se déplacer. Je suis ravie de voir que les gens en profitent.
La retraitée n'avait pas vu autant de monde dans une gare à Paris depuis longtemps. À Montparnasse, 100% des TGV circulent vers la côte atlantique.
Alors que beaucoup de Français profitent de ce week-end prolongé pour respirer, la Guyane se referme. On en parlait un peu plus tôt sur Inter. Le département se reconfine dès demain et pour 15 jours. En métropole, nouvelle étape du déconfinement dans 6 jours. Le gouvernement jongle avec les jauges. La règle pour les terrasses de restaurants, ce sera 50% de la capacité, mais pas pour les petites terrasses, précise Bercy. Les patrons qui ont moins de 10 tables n'auront pas à respecter cette limite s'ils placent des plexiglas ou autres séparations entre les tables. En attendant, on pique à tour de bras pour atteindre l'objectif de vaccination français. 20 millions d'injections anti-coronavirus administrées à la mi-mai. On en est à 19 millions aujourd'hui. Tous les adultes peuvent désormais se faire vacciner s'il reste des doses en fin de journée. Mais le produit mal-aimé d'AstraZeneca ralentit cette campagne. En France, 15 personnes sont mortes peu après avoir reçu l'injection, certaines victimes de thrombose veineuse. Guillaume Dominguez, les proches des victimes veulent savoir s'il y a, oui ou non, un lien avec la vaccination.
La majorité des personnes décédées avaient plus de 55 ans, mais il y avait aussi deux soignantes de 38 et 41 ans. Quelques jours après leur injection, elles ont développé une forme rare de thrombose veineuse, comme Anthony, un étudiant en médecine de 24 ans, mort à Nantes en mars dernier. Chaque famille a déposé une plainte contre X pour homicide involontaire. Leur avocat, maître Étienne Boitin, n'exclut pas un lien de causalité, mais reste prudent.
Le rapport d'autopsie d'Anthony élimine un certain nombre d'hypothèses. Nous pouvons simplement
longtemps affirmé que le lien de causalité possible entre l'injection d'AstraZeneca et le décès est renforcé, mais je ne peux pas aujourd'hui de façon formelle dire que l'AstraZeneca est la cause du décès.
Même son de cloche pour les associations d'aide aux victimes, mais pour Catherine Gache, présidente du réseau des victimes d'accidents vaccinaux, de nombreuses plaintes pointent du doigt l'AstraZeneca.
Nous avons des familles qui ont noté que leurs proches étaient décédés suite à des thromboses qui surviennent après vaccination AstraZeneca. Nous ne pouvons que suspecter le lien, mais c'est vraiment pour l'instant l'AstraZeneca qui est le plus ciblé.
Les familles de victimes attendent aujourd'hui les rapports d'autopsie pour connaître les causes exactes de la mort de leurs proches. 12 enquêtes sont en cours à travers toute la France, dont 3 menées par le pôle santé publique du parquet de Paris.
Et rappelons que ces effets secondaires sont très rares. Plus de 4 millions de personnes ont été vaccinées à l'AstraZeneca en France. Ce vaccin AstraZeneca reste toutefois réservé aux plus de 55 ans. Avis de la Haute Autorité de Santé hier soir, à la lumière des nouvelles données, elle réaffirme l'utilité incontestable de cette injection. Et le jackpot est peut-être au bout de la seringue. En tout cas, en Ohio, cet état des États-Unis vient de créer une loterie pour inciter la population à se faire vacciner. À la clé, 1 million de dollars à gagner.
France Inter, 7h06, la suite du journal Marion Lourd. Le déluge de feu se poursuit au Proche-Orient et le bilan s'alourdit. Au moins 74 morts en 2 jours.
Israël en alerte maximale sous la menace des roquettes palestiniennes, y compris dans le nord du pays, selon Tsahal. Un garçon de 6 ans aurait péri sous une roquette dans la ville de Sderot. Les Palestiniens, eux, subissent les frappes de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. La vidéo d'un homme présenté comme arabe et roué de coups jusqu'à perdre connaissance circule sur les réseaux sociaux et a même été diffusée en direct à la télévision. Le chef de la diplomatie américaine demande au président palestinien Abbas de mettre fin aux attaques de roquettes. Le président américain Joe Biden, lui, appelle le premier ministre israélien Netanyahou, correspondance aux États-Unis, Grégory Phillips.
Les Américains s'engagent un peu plus. Le département d'État a envoyé hier soir à Jérusalem son spécialiste des questions israélo-palestiniennes, Adi Amer, reconnu par les deux parties d'ailleurs comme un très bon connaisseur de la région. Il va s'entretenir avec les dirigeants israéliens et palestiniens. Parallèlement, Joe Biden a enfin décroché son téléphone et contacté celui qu'il appelle Bibi Netanyahou. Les deux hommes se connaissent très bien depuis 30 ans, quand Biden était à la tête de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Et le président des États-Unis relate ainsi son échange avec Benjamin Netanyahou. Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire. Ma conversation avec le Premier ministre a été assez longue. Mon espoir est que la situation se règle rapidement. L'administration Biden multiplie les contacts avec les pays arabes dans la région, Qatar, Égypte et Jordanie. En revanche, les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué hier une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York qui aurait appelé Israéliens et Palestiniens à cesser toute provocation. Mais aux yeux des Américains, une telle prise de position du Conseil de sécurité aurait été inutile. New York, Grégory Phillips, France Inter.
Et pourtant, il y aura une nouvelle réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies demain. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 8h sur France Inter. En France, c'est une information. France Inter, le président de la République pourrait renoncer à faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon. Les associations féministes, notamment, réclament l'arrivée de cette avocate parmi les grands hommes. Mais Harkis et Pieds Noirs voient d'un très mauvais œil une telle distinction pour celle qui a défendu les militants du FLN algérien. On vous explique tout sur notre site franceinter.fr. Le ministère du Travail revoit encore sa copie pour la réforme de l'assurance chômage prévue cet été. Les congés maternité, longue maladie et le chômage partiel étaient mal pris en compte. Un décret rectificatif vient donc d'être envoyé au Conseil d'État. Objectif, éviter que les demandeurs d'emploi longtemps malades ou au chômage partiel ne soient pénalisés. Hélène Philippe, pas sûre que le débat soit clos.
Le texte tel qu'il était initialement prévu était censé neutraliser ces périodes non travaillées, particulières, mais ne le faisait que partiellement, certains demandeurs d'emploi pouvant perdre jusqu'à 30% de leur allocation. Le ministère pense aujourd'hui avoir trouvé la parade en reconstituant pour les moments de maternité, de maladie ou d'activité partielle un salaire dit fictif. Drôle de formule, relève Michel Boga de Force Ouvrière.
Par le terme même de salaire fictif, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas réel. On va reconstituer un salaire fictif. Alors c'est déjà en soi une source d'erreur et ça n'enlève rien à la discrimination faites, par exemple, aux femmes qui sont en congé maternité, etc. Parce que on sait qu'un salaire, c'est constitué soit du salaire de base, mais aussi parfois de primes. Et tout ça, ça sera difficile à reconstituer.
Et l'UNEDIC met aussi en garde, dans une note transmise hier au service du ministère et que nous nous sommes procurés, elle rappelle que l'allocation chômage doit être établie sur la base de rémunération perçue, ce qui n'est donc pas le cas d'un revenu fictif. Il y aurait donc à ses yeux un risque que la solution trouvée ne soit pas légale.
Pour une égalité économique et professionnelle réelle entre femmes et hommes, l'Assemblée nationale vient d'adopter une proposition de loi LREM. Elle prévoit des quotas pour que davantage de femmes aient leur place au poste de direction des grandes entreprises. 300 gendarmes mobilisés jour et nuit, deux jours après un double meurtre dans le Gard. Les fonctionnaires quadrillent la zone où se trouve l'assassin lourdement armé qui a tué son patron et son collègue. Profil de cet assassin présumé dans le journal de 7h30 sur Inter. Au Japon, encore un peu plus d'inquiétude pour les Jeux Olympiques d'été sur fond de pandémie. Cette fois, une quarantaine de villes viennent d'abandonner leur projet d'accueillir des athlètes étrangers. Eux ont enfilé leurs crampons et leurs maillots pour affronter les pros de Monaco. Les footballeurs amateurs de Rumilly-Vallières en Haute-Savoie se mesurent à plus fort qu'eux. Demi-finale de Coupe de France. Aide d'honneur attendue cet après-midi sur la route du Parc des Sports d'Annecy. Les amateurs du GFA et leurs supporters vivent un rêve éveillé, Richard Vivion.
Gros morceau, gros rocher comme on dit.
Un rocher, mais pas question non plus de s'en faire une montagne de Monaco. Jean-Manuel Ribeiro, conseiller en gestion de patrimoine dans la vie de tous les jours et défenseur de Rumilly-Vallières, savoure déjà le bonheur d'être en demi-finale.
Pour tout footballeur, amateur, c'est un rêve de pouvoir jouer ce genre de match. On le voit dans notre entourage, hein. On reçoit beaucoup de messages de personnes qui disent « vous avez de la chance », etc. Enfin, c'est juste fou.
Alors dans l'histoire de la Coupe de France, le GFA est le quatrième club de National 2 à réussir un tel parcours, une épopée qui arrive au meilleur moment car privée de championnat en raison de la Covid, la Coupe permet aux amateurs au Savoyard de continuer à jouer et de s'entraîner. Elle fait aussi vibrer les supporters des Bleus comme Sias.
On s'est rassemblés pour préparer un peu les bâches qu'on va mettre au stade, pour encourager les petits mots, des petits messages. Nous, on est bouillantes, comme on dit. S'il n'y avait pas tout ce qui se passe en ce moment, on serait dans les tribunes et tout, et ce serait encore d'autant plus la fête.
Des supporters qui, à défaut de pouvoir se rendre au stade ce soir, ont prévu une aide d'honneur à Rumilly au moment du départ de leurs joueurs.
Monaco Ligue 1 contre Rumilly, Vallières National 2, coup d'envoi du match 21h15. Le vainqueur affrontera en finale le PSG, vainqueur hier au tir au but contre Montpellier. Qui sait, les baskets des footballeurs de Rumilly se vendront-elles un jour, peut-être, elles aussi à prix d'or. En tout cas, celles du basketteur Michael Jordan ont battu des records la nuit dernière, vendues chez Sotheby's pour l'équivalent de 126 000 euros. La paire rouge, blanche et noire porte l'emblème des Chicago Bulls. Il paraît qu'elle est un peu usée au niveau de l'orteil et autour des talons.
Merci pour la précision, Marion Lourd. Le Zoom dans 3 minutes, visite en avant-première de la Bourse de commerce Pinault Collection à quelques jours de son ouverture au public en plein cœur de Paris.